autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver avec Apolline Verlon-Raison à la réalisation pour nous demander comment on devient champion paralympique. Qu'est-ce qui pousse certains sportifs handicapés à se dépasser, à transcender leurs blessures pour devenir des héros? Le mot n'est pas trop fort. Au vu des exploits accomplis en ce moment même aux Jeux paralympiques de Rio, pourquoi certaines personnes handicapées se dressent pour atteindre des étoiles, alors que d'autres, valides, ne peuvent seulement pas imaginer qu'elles existent? Voilà ce que s'est demandé notre invité, Hubert Ripoll, chercheur en psychologie et spécialiste de psychologie du sport, qui a enquêté auprès de ces sportifs handicapés pour tenter de comprendre leur capacité de résilience et comment cela pourrait nous inspirer. La résilience par le sport, c'est le titre de l'ouvrage qu'il vient de publier aux éditions Odile Jacob, autour de la question « Pourquoi et comment des champions paralympiques ?» Bienvenue. Bonjour Hubert Ripoll.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous pour partager les questions et les réponses que vous avez cherchées auprès de tous ces grands champions sportifs handicapés, des êtres d'exception, comme on le découvre dans ce livre, La résilience par le sport, aux éditions Odile Jacob. Vous êtes Hubert Ripoll, professeur d'université, chercheur en psychologie et psychologie du sport. C'est vous qui avez créé le premier laboratoire de psychologie cognitive appliquée au sport. Et parmi tous les champions et grands sportifs auprès desquels vous avez travaillé, ce sont finalement les champions handicapés qui vous ont le plus interrogé. Pourquoi ?
Or, qui m'ont le plus appris, je veux dire. Les autres, je travaille avec eux depuis 40 ans. Je sais comment ça se passe. Il y a encore beaucoup de zones d'ombre, mais je sais. Eux, je les ai côtoyés. Et je me suis engagé dans cette enquête pour comprendre comment ils fonctionnaient. Et à vrai dire, ils m'ont beaucoup plus appris que tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent.
Comment ils fonctionnaient et comment ils sont devenus des êtres d'exception, hein ? Le mot n'est pas trop fort.
Oui, des êtres d'exception. Imaginez que vous puissiez traverser la Manche sans bras et sans jambes, c'est ce qu'ils font. Que vous soyez capable de conduire une monture à cheval, un animal à cheval, alors que vous êtes aveugle, que vous êtes capable de jouer au football alors que vous ne voyez pas. Bon, voilà, ce sont des choses tout à fait exceptionnelles. Ce sont vraiment des performance qui, quelquefois, si on n'est pas habitué, relève de la mythologie. Non, il y a des dieux qui puissent faire ça, pas des êtres humains, mais ils sont tellement humains. Ils sont comme
nous. Ils sont tellement humains, justement. Ils se sont dépassés. Alors, il y a beaucoup d'émotions, évidemment, dans cette enquête. Hein, comment tous ces héros, j'ai envie d'employer ce mot-là, ont fait de leurs blessures, de leurs souffrances, de leur handicap, un merveilleux malheur. C'est ça, pour reprendre l'expression de Boris Cyrulnik, qui a théorisé ce concept de résilience. Un merveilleux malheur.
Alors, moi, je n'aurais jamais osé leur demander, étant valide, si leur handicap avait pu être un merveilleux malheur. Mais j'ai saisi l'expression de Boris Cyrulnik pour leur dire, qu'est-ce que vous pensez de cette expression ? Et j'étais très surpris, c'est que tous la reprennent à leur compte. Ce qui veut dire qu'ils ont bien connu un malheur, mais qu'ils ont été capables d'en faire quelque chose. Et au bout de ce long chemin, il y a quelque chose de merveilleux. Et pour certains, ils nous le disent, peut-être plus merveilleux que s'il n'avait pas été handicapé.
Alors, beaucoup d'émotions, on s'en doute, mais aussi beaucoup d'humour. Un humour qu'ils partagent souvent, un humour souvent ravageur, que je vous propose, amis auditeurs, de découvrir tout de suite dans cet extrait de la série télévisée Vestiaire, diffusée sur France 2, qui ose l'autodérision. On écoute l'hymne paralympique. Accrochez-vous à vos chaises, roulantes ou pas.
Ici le mont Olympe a une rampe et les dieux du stade des prothèses. Nous les athlètes d'une autre trempe,
nous allons vous faire décoller de vos chaises quand
si tu n'as pas nos jambes sont peut-être en carbone, mais nos médailles sont bien en or. On n'a pas besoin d'avoir des corps d'Amazone pour exploser tous les records.
Ici, il y aura toujours une discipline pour toi.
Si t'as pas de bras, tu joueras avec les pieds. Si t'as pas de pieds, tu joueras avec la tête.
Et si t'as pas de tête, tu joueras avec...
Nous allons vous donner notre meilleur. Et ainsi oublier toutes nos douleurs. La flamme olympique ne va pas nous aveugler. Nous fêterons la victoire.
Il fallait oser, Hubert Ripoll. On a quand même l'impression qu'ils osent tout, qu'ils ont tout osé dans leur vie, ces champions paralympiques.
Oui, pour revenir à cet hymne-là, d'abord, on sait ce que le rire a comme vertu apaisante et l'autodérision a la capacité à vous faire vous décaler par rapport à ce que vous vivez. Donc, et ensuite, ils ont compris quelque chose de très important, c'est que ce n'est pas en étant dans la compassion par rapport au handicap qu'on fait avancer les choses, mais en étant dans l'action. Et alors, eux sont dans l'action. Alors, ils ont évidemment rencontré des moments extrêmement difficiles, des moments de détresse. Mais ce qui est important pour nous, handicapés, et je dirais même peut-être plus encore nous, valides, c'est qu'ils nous montrent que l'on peut toujours faire quelque chose et que l'on peut bâtir sur quelque chose qui a été détruit, sur une blessure, qui est la définition de la résilience, qui est de faire quelque chose de sa blessure, et ils ont fait quelque chose de leur blessure. Donc, ils ont rebondi tout le temps.
Ils ont rebondi tout le temps, quel que soit leur parcours, parce que dans tous ces parcours de champions paralympiques, il y a différentes cas de figure, il y a des handicapés de naissance, il y a des handicapés par accident. Qu'est-ce qui vous a frappé dans ces parcours? Il y a des grandes différences, justement, sur la manière dont ils sont entrés en résilience, selon que c'était de naissance. C'est lié à leur entourage, dites-vous, dans ce livre.
Tout d'abord, mon travail consiste à prendre des individus extrêmement différents qui ont au moins un point en commun. Ils sont handicapés et ils sont devenus champions. À partir de là, ce que je cherche, c'est non pas les différences, mais ce qui les rapproche, parce que si j'arrive à comprendre comment ils ont résilié, je peux comprendre ce qu'est la résilience et je peux la rapporter à moi-même et aux autres personnes handicapées.
Parce que c'est ça qui vous intéresse, c'est de comprendre au fond comment ils ont résilié et qu'est-ce qui fait qu'un individu, donc handicapé, entre en résilience et devient champion. Enfin, parce que c'est quand même ça.
Tout à fait. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui est transférable. Ce qui m'intéresse, c'est qu'une personne qui est fraîchement, entre guillemets, handicapée, alors qu'il est dans l'état de sidération, eh bien, s'il a ce livre entre les mains, qu'il puisse se dire, bon, voilà les chemins par lesquels on passe pour quelquefois atteindre le bonheur malgré un héritage ou une vie qui n'a pas été fastueuse et très, très, très difficile.
Donc, et quels sont les points communs,
alors, les points communs, d'abord, tous... on va dire qu'ils ont été bien accompagnés. Bien accompagnés, ça veut dire ne pas être trop exposé et ne pas être non exposé. Hein.
Donc, ni trop couvé, ni trop exposé.
Ça, c'est très important. Ils ont été reconnus par leur environnement, notamment par leur famille, comme des individus qui sont agissants et désirants. Et ils ont été reconnus avec leurs différences et non pas malgré leurs différences.
Et c'est important, cette nuance. Hein. Avec
leurs différences. Et rapidement, deux d'entre eux qui ont été dans des conditions épouvantables d'abandon, on va dire, d'abandon.
Abandonnés par leurs parents.
Abandonnés quasiment, auraient dû, comme le dit la théorie, disparaître psychiquement ou physiquement. Ils le disent eux-mêmes, on a compris un jour qu'on allait mourir. Or, ils ont eu la chance d'avoir ce qu'on appelle des tuteurs acteurs de résilience, c'est-à-dire des personnes qui leur ont tendu une main, qui les ont aidés à s'agripper pour se grandir, alors que, eh bien, ils ne pouvaient pas marcher.
Ça pouvait être des soignants.
Ça a été l'équipe de soignants et notamment quelques personnes. Si ces personnes n'avaient pas été là, ils seraient vraisemblablement morts, au moins psychologiquement et peut-être physiquement. D'où l'importance du lien, l'importance de l'entourage et d'un entourage qui est capable de regarder un individu pour ce qu'il est et non pas pour ce que on voudrait qu'il soit.
Alors, est-ce que pour rentrer en résilience, il faut être un champion? On va s'interroger sur RFI. Mais d'abord, on écoute le pianiste Jean-Philippe Riquiel, pianiste aveugle de naissance et musicien mandingue d'adoption, en duo avec le griot guinéen Morijeli Kouyaté. Le morceau s'appelle « Nan Foulé ». Jean-Philippe Riquiel au piano, Djeli Morikouyaté à la voix sur RFI, en compagnie du chercheur en psychologie Hubert Ripoll, autour de la question pourquoi et comment des champions paralympiques. Nous tentons de comprendre et de nous inspirer de l'itinéraire de résilience de ces êtres d'exception que vous avez interrogés, Hubert Ripoll. Comme Emmanuelle Morche, c'est l'un des espoirs du tennis en fauteuil, elle est actuellement à Rio pour les Jeux paralympiques. Pourquoi et comment Emmanuelle Morche est-elle devenue ce qu'elle est devenue? Elle s'est racontée juste avant son départ pour Rio à Charlie Dupuy.
Le tennis, c'est un peu un hasard. J'en faisais pas avant mon accident. Donc, j'ai eu un accident en 2008, accident de snowboard qui m'a rendue paraplégique. Et j'ai voulu faire un peu de basketball pour essayer, puisque j'en avais fait une année en valide et je voulais reprendre un sport que je connaissais. Et finalement, au bout de 3 mois de pratique de basketball, je me suis dit, ben non, en fait, il faut que je fasse un sport que je connais pas pour pas comparer et pour pas me sentir frustrée. Donc, je me suis lancée dans le tennis en ayant vu jouer un match de double à Roland-Garros où j'ai trouvé ça absolument magique. Bah, je me suis dit que c'était incroyable de pouvoir atteindre un niveau de jeu pareil dans un fauteuil. Et je me suis dit que c'était vraiment un sport à part entière, que c'était pas du handisport, que c'était juste un sport avec des athlètes de très haut niveau.
Il a aussi fallu apprendre à vous déplacer avec le fauteuil rapidement.
Ouais. Vu qu'on tient la raquette en même temps que la main courante du fauteuil, les premières heures, ça arrivait qu'on se coince les mains ou les doigts dans les rayons, on tape la raquette par terre en voulant se déplacer, on glisse, etc. Mais finalement, le déplacement en fauteuil, c'est quelque chose que j'utilise dans ma vie quotidienne, puisque je suis en fauteuil tous les jours. Donc, sur le terrain, c'est venu assez vite. Aujourd'hui, je m'entraîne à plein temps depuis un an, c'est-à-dire je m'entraîne 5 jours par semaine. Plus un entraînement physique, beaucoup de préparation avec des kinés pour éviter de se blesser. J'ai fait 31 tournois cette année, ce qui représente 31 semaines à l'étranger. C'est vraiment une vie d'athlète de haut niveau, en fait.
En quoi le tennis a pour vous été une forme de résilience?
J'ai toujours été sportive, donc c'est vrai que pour moi, c'était normal de continuer dans le sport après l'accident. J'ai voulu continuer également mes études. J'ai passé mon bac juste après mon accident, puisque j'étais en année de terminale quand je l'ai eu. Finalement, je me retrouve dans le haut niveau, qui est quelque chose que j'aurais jamais pu atteindre en valide. Donc, ça m'a donné confiance de voir que je pouvais atteindre cet objectif qui était un peu un pari fou au départ. Je pense que c'est un tout. Le tennis, ça fait partie du rebond que j'ai eu après mon accident. Voilà, je pouvais partir toute seule une semaine au Japon pour faire un tournoi et revenir. Ce sont des choses qui montrent mon autonomie. Donc, ça me l'a montré à moi et à mes proches. Plus les années passent, moins je me dis... Mince, je suis dans un fauteuil, ma vie est finie. Ça, c'était vraiment dans les tout premiers mois Se dire que je peux participer aux Jeux paralympiques, c'est incroyable. Mais c'est vrai que c'est une grosse étape de ma vie qui m'a permis de passer à autre chose, quoi. De me dire, OK, je suis en fauteuil, mais ça ne m'empêche pas de vivre des émotions incroyables et de faire quelque chose de ma vie.
Vous voulez réagir, Hubert Ripoll, à ce témoignage d'Emmanuel Morche que vous avez rencontré pour cette enquête?
Vous savez, elle a dit l'essentiel. Je crois qu'il faut rester là-dessus. Elle a vraiment dit l'essentiel.
L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est non seulement que son handicap ne l'empêche pas de vivre, mais qu'il lui a permis de vivre quelque chose d'incroyable. Elle a parlé de la souffrance, de la douleur, de la difficulté. Pas seulement, elle dit aussi, finalement, ça m'a permis de me dépasser. C'est-à-dire qu'au fond, c'est une leçon de vie aussi pour tout un chacun, pour nous, valides.
Alors, leur point commun, au-delà de l'accompagnement, c'est leur volonté de s'accomplir. À la différence des champions valides qui veulent souvent réussir pour satisfaire leur ego.
C'est une grande différence entre champions valides et champions handicapés.
C'est la différence fondamentale.
C'est s'accomplir eux-mêmes, faire quelque chose de leur vie.
S'accomplir, c'est-à-dire se battre soi-même, avec eux-mêmes, pour progresser, pour aller le plus loin possible. Ça, c'est ce qui vraiment leur caractérise. Et ça, c'est une force extraordinaire dans la vie. En s'accomplissant, ils vont devenir champions. C'est-à-dire qu'ils ne deviennent pas champions pour s'accomplir. Ils s'accomplissent et ils vont devenir champions. C'est une des conséquences de leur investissement. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils s'entraînent moins que les autres. Vous avez vu, Emmanuel s'entraîne 5 heures par semaine. Elle s'entraîne beaucoup plus que certains de nos champions qui sont dans les top 20 français. Ça, je le sais. Et c'est valable pour tous. Ça ne veut pas dire qu'elle a moins de hargne à gagner que les autres. Non, elle a autant de volonté de gagner. Et c'est donc une grande championne. Ce sont de grands champions.
Mais ce qui passe d'abord, c'est l'accomplissement de soi et à travers le corps. Enfin, c'est ça aussi que je trouve incroyable. C'est, enfin, fascinant. Ce corps souffrant, ce corps handicapé, ce corps en fauteuil. Et c'est à travers ce corps qu'elle s'accomplit elle-même et qu'elle devient championne.
Alors ça, c'est la vertu du sport. Certes, on peut résilier en faisant quelque chose de sa blessure et en la réinvestissement dans toute activité sociale. Un pianiste, on l'a entendu, un peintre, toutes sortes d'activités. Alors pourquoi je pense que le sport a une vertu particulière? C'est parce qu'il amène à s'exprimer avec ce qui a été la source de la difficulté et qui amène à exposer un corps que personne ne veut voir. Et exposer ce corps, c'est de le rendre montrable. Et si mon corps est montrable, alors l'image de moi est acceptable. Et si l'image de moi est acceptable, alors l'estime de moi grandit. Et si l'estime de moi grandit, alors j'ai confiance en moi. Dans un environnement où tout pousse les personnes handicapées à ne pas avoir confiance en elles.
D'où l'incroyable fascination que moi j'ai eue d'abord en lisant votre livre avec l'émotion et maintenant en regardant ces championnats paralympiques, parce qu'on est là vraiment dans des questions qui semblent complètement incroyables. Enfin, quand on voit ça, on a l'impression de gens qui vivent quelque chose d'extraordinaire et que d'habitude on ne regarde pas. On ne le regarde pas d'habitude, on détourne le regard. Et là, on est forcé d'être impressionné.
Alors on est impressionné et puis on peut entrer en empathie avec eux, visiblement c'est ce qui s'est produit. L'empathie c'est ce qui nous fait partager avec le champion. Lorsque je regarde Teddy Riner, moi qui suis blanc, je suis noir. J'accepte et j'intègre les vertus de Teddy Riner. Lorsque vous regardez un champion handicapé, vous êtes en empathie avec lui ou avec elle et donc vous partagez et c'est vrai qu'elles font des choses tout à fait extraordinaires. Ce sont de véritables exploits.
Autour de la question pourquoi des champions paralympiques et comment nous en inspirer, on continue de s'interroger ensemble. Dans 3 minutes, vous restez avec nous. Hubert Ripoll, on se retrouve juste après le flash d'info pour découvrir d'autres parcours surhumains et tellement humains. A tout de suite.
Caroline Lachowski.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez à Paris comme à Rio pour cette deuxième partie autour de la question pourquoi et comment des champions paralympiques, en compagnie du chercheur en psychologie Hubert Ripoll, qui vient de publier La résilience par le sport aux éditions Odile Jacob et qui a mené l'enquête auprès de 24 champions sportifs handicapés pour comprendre comment et par quel processus ces hommes et ces femmes sont capables d'accomplir de telles performances, de tels exploits qui défient tous nos imaginaires, accomplissement de soi, dépassement de soi. On écoute Philippe Croison, amputé des quatre membres. Il a traversé la Manche et réussi à relier les cinq continents à la nage.
La traversée a été assez difficile, puisqu'il a fallu qu'on nage au-delà de ce qu'on nageait d'habitude. D'habitude, on fait de la longue distance. Et là, c'est vraiment une longue distance aussi, mais il fallait nager très très vite pour le courant. Il fallait franchir cette barrière de courant à chaque fois. Et on a nagé au-delà de notre force. On avait très très mal au dos à un moment donné. Mais l'envie était trop forte, il fallait qu'on aille au bout. Et on a réussi la troisième. C'était la plus dure pour nous, le détroit de Gibraltar. Et on est fiers d'avoir relié l'Europe à l'Afrique. Et on est bien à la preuve. Un nageur valide, un nageur handicapé. Tous les deux, on relie les cinq continents à la nage. On prouve qu'on est tous pareils, il n'y a pas de différence. On est tous sur la même planète. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de handicapé. On est tous la même chose.
Formidable message de Philippe Croison. Bon, lui, c'est un super-héros, Hubert Ripoll. Je ne sais pas comment le définir autrement.
Oui, super-héros. Et qui nous montre ce qu'il dit est quand même fondamental pour comprendre le sens que nous pouvons donner à nos vies. Et concernant la différence, nous sommes tous différents et pourtant nous sommes tous identiques. Et symboliquement, il relie là deux continents, l'Europe et l'Afrique, et qui montre qu'au-delà de nos apparences, on partage énormément de choses. Et ce qui veut dire que notre force, et Philippe, lui, a connu cela, hein, perdre ses quatre membres et faire ce qu'il a fait. Pour pouvoir faire cela, il y a fallu du lien. Il a fallu quelqu'un qui l'aide à grandir.
Il dit d'ailleurs, c'est même au tout début de votre livre, c'est vraiment en exergue, vous le citez, Philippe Croison, il dit « J'imagine que sur mon lit d'hôpital, un mec serait rentré dans ma chambre pour me dire « Je n'ai pas de bras, je n'ai pas de jambes, mais je viens de traverser la Manche à la nage. Alors si tu veux le faire, tu peux le faire et tu vas résilier. » Je lui aurais dit « Casse-toi, je ne t'ai rien demandé. »
Alors Philippe a parfaitement raison, on n'est pas là dans l'exemple, ils ne sont pas là pour donner des leçons. Je dis ça parce qu'ils ont des leçons à nous donner, ça peut paraître bizarre parce qu'on n'a pas l'habitude que les personnes handicapées nous donnent des leçons, mais moi je peux vous garantir qu'ils nous en donnent et quelles leçons. Mais alors si je prends le cas de Philippe Croison, il est le parrain, on va dire, spirituel d'un de nos grands champions qui lui-même actuellement, qui est en train de briller aux Jeux Paralympiques, qui n'a pas de bras et pas de jambes, et il a suffi d'un regard, il a suffi d'un encouragement de Philippe, non pas de conseils, mais d'un lien affectif fort pour que ce jeune enfant qui ne savait quasiment pas nager nous représente à Rio.
C'est que ce que vous dites, c'est qu'il suffit d'un regard, mais qui touche quelqu'un qui déjà peut résilier, qui déjà ne va pas mourir de ce qui lui est arrivé. Enfin, c'est un regard qui doit toucher quelqu'un qui est réceptif et qui a envie de s'accomplir et de donner un sens à sa vie, quelles que soient les conditions dans lesquelles il la vit.
Alors, il faut que le regard, l'événement, les circonstances, cette petite flamme qui va déclencher une grande réaction, évidemment, elle se produit chez quelqu'un qui l'attend et qui est prêt à s'engager là. Alors même qu'il ne le sait pas. Et ça, c'est une constante. À chaque fois, il y a eu un événement qui peut paraître absolument insignifiant et qui a été au départ d'une grande réaction chimique, parce qu'il s'agit de neurones, mais émotionnelle.
Qui a fait tilt dans l'esprit de celui qui est dans son lit ou devenu invalide, devenu handicapé et
Absolument.
Qui attendait quoi, une flamme de quelqu'un d'autre, enfin un regard de quelqu'un d'autre pour avancer.
Absolument. Je prends l'exemple d'une championne de snowboard, Hernandez Cervelon, qui me dit elle était déjà internationale. Et ça faisait 3 ans qu'elle était dans un lit, clouée, avec l'envie de mourir. Il a suffi qu'une personne entre et qui lui dise ceci: tu as un caractère de merde, mais un caractère de merde qui peut te faire t'en sortir. Et dans 3 mois, tu marcheras. 3 mois plus tard, elle marchait. 2 ans plus tard, elle gagnait une médaille aux Jeux paralympiques de Sochi. C'est absolument invraisemblable. Et la première chose qu'elle m'a dit, mais si j'avais pu lire, si j'avais pu trouver quelqu'un comme vous au départ, j'aurais su que ma vie n'était pas terminée. Et c'est aussi pour ces personnes-là que j'ai écrit ce livre.
Et c'est vraiment une question de lien. Philippe Croizon, pour en revenir à lui, dit tout le temps « on ». Il a traversé la Manche et les 5 continents à la nage avec un nageur valide. Aux Jeux paralympiques, on voit des athlètes aveugles, non-voyants, qui courent avec un accompagnateur. Il y a le « avec », hein. Il n'y a pas de frontière entre handicapés. Enfin, c'est plus les mêmes frontières entre handicapés et valides, mais c'est dans le lien, c'est dans le « on », c'est dans l'accompagnement que ça peut se passer.
C'est dans la complémentarité. C'est dans la complémentarité. Et en fait, vous savez, ils ne nous apprennent rien de plus que ce que nous devrions savoir pour nous-mêmes. C'est que sans le regard de l'autre, nous ne sommes rien. Sans l'image que nous renvoie l'autre, nous ne sommes rien. Or, précisément, les personnes handicapées ne sont pas dans le lien parce que la société a tendance à les stigmatiser et à leur refuser de mener la vie que mène tout le monde, c'est-à-dire de se déplacer comme tout le monde et aller partout comme tout le monde. Et donc c'est ce lien qui leur manque le plus et c'est ce lien qu'ils mettent en œuvre dans leur vie de tous les jours.
Et c'est paradoxalement, hein, en lisant votre livre, l'impression qu'on a, c'est de se dire mais finalement ce sont eux qui ont quelque chose à nous apprendre. Ce sont eux les handicapés ou ce sont nous qui nous empêchons finalement, tout valide que nous soyons, peut-être, de vivre ou de rêver ce que eux se permettent de rêver.
Une chose est certaine, c'est qu'ils ont beaucoup à nous apprendre. Ils ont beaucoup à nous apprendre puisque nous sommes des handicapés en puissance. Qu'est-ce que sera mon corps dans 20 ans ? Celui d'une personne qui aura de très gros handicaps, même si socialement ils sont naturels, comparé à l'homme que je suis actuellement. Or, comment vais-je vivre ces 20 ans ? Or, je sais qu'ils m'ont apporté suffisamment de choses pour vivre avec, entre guillemets, mon tout petit handicap, n'exagérons rien.
Autour de la question pourquoi et comment des champions paralympiques, je vous propose, Hubert Ripoll, un nouvel éclairage. C'est celui de Laetitia Bernard, que vous avez rencontrée également. Aveugle de naissance, elle a longtemps pratiqué l'équitation en compétition avant de devenir journaliste, la voix des Jeux paralympiques sur les antennes de Radio France. Charlie Dupieux l'a rencontrée avant son départ pour Rio.
Moi, je suis aveugle de naissance, donc j'ai grandi avec. Bien sûr, j'ai commencé à avoir peur quand le poney s'emballait un peu, quand il faisait des sauts bizarres. Mais à cheval, on a toujours adapté les cours. J'avais des cours particuliers au début. Hein. Quand on fait de la compétition de saut d'obstacle, on est à deux, on est en binôme. Vous avez un cheval devant qui fait le parcours à 2-3 foulées et qu'on suit un peu comme ce qui se pratique en ski. C'est une des techniques. Alors, il y a plusieurs techniques. Après, on peut aussi avoir ce qu'on appelle des crieurs, des gens autour des obstacles. Ça, c'est une autre adaptation. À l'époque, on n'avait pas grand-chose. On avait une épreuve en e-sport par an, enfin un championnat de France, ils appelaient ça. Après, ça s'est développé. On a eu un circuit, donc j'ai couru plusieurs fois. Et puis, on a eu la chance d'avoir une dérogation pour avoir le droit de courir chez les valides. J'ai réussi à me qualifier à l'époque pour les championnats de France club.
Avec des valides ?
Oui, ouais, ouais. Alors, j'étais guidée. Donc, j'avais un cavalier devant moi, on avait le droit. Mais ouais, j'ai réussi. J'étais pas dans une catégorie différente. J'avais un côté où je me sentais normale, c'était sympa. Et puis bah, les autres, ils y voyaient quand même. Donc je me disais, bon, arriver à me qualifier chez les valides, je trouvais ça un peu fou. C'est pas par opposition au handisport. C'était juste une fierté supplémentaire.
Même si aujourd'hui, vous faites moins de compétitions et moins d'entraînement, qu'est-ce que ça vous a apporté ?
Vivre avec un handicap comme le mien demande beaucoup de force, de surmonter beaucoup d'obstacles. Et finalement, peut-être le fait d'avoir la sensation de m'envoler au-dessus et d'avoir en plus une sensation fantastique au sens propre quand je suis à cheval, voilà, moi, ça me porte. Et qu'il y a un lâcher-prise, un mouvement en avant qu'on n'a pas, par exemple, quand on marche en canne blanche, quand on est au bras de quelqu'un, même si on fait confiance, ben, on est toujours un peu raide, un peu... Bon, on suit. Vous voulez aller à la boulangerie, la porte, on ne sait pas exactement où elle est. On a beau compter un tout petit peu ses pas, ou il faut toucher à la main. C'est le fait de monter à cheval et de sauter. Ça donne une vraie, 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 vraie force. Et les chevaux font partie de mon équilibre de vie, de toute façon.
Sacrée force de caractère, leçon de vie à chaque fois, toujours. En lisant votre livre, hein, Hubert Ripoll, la résilience par le sport, à chaque fois qu'on entend une athlète, une ex-athlète, une championne paralympique, c'est une leçon de vie.
Alors, c'est toujours une leçon de vie, mais il ne faut pas penser qu'il faut être champion pour pouvoir dégager cette notion de vie. Hein, j'ai fait une étude que je relate dans ce livre avec 24 autres sportifs, on va dire normaux, entre guillemets, ce ne sont pas des champions. Et notamment, je leur ai posé une question, deux questions. J'ai posé la même question aux champions. La première, c'est pensez-vous avoir accédé au bonheur ? Et deuxièmement, pensez-vous vous être accompli dans la vie ? Or, leur taux de satisfaction, on va dire, sont strictement identiques à celles des champions. Ça, c'est particulièrement important. Cela veut donc dire que ce n'est pas le fait de champion, d'être champion, qui permet d'entrer en résilience, c'est le fait de s'accomplir.
C'est le fait de s'accomplir soi.
Absolument.
Et avec le corps, hein, c'est ce qu'on a commencé à dire aussi en première partie, avec le corps, avec ce corps meurtri, blessé, que les autres ne veulent pas voir. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre. Je ne sais pas si c'est une revanche, mais en tout cas, c'est un changement de regard complètement.
Le mot revanche est rarement présent chez eux. C'est accomplissement. Celui qui est dans la revanche, quelle qu'elle soit, est dans l'amertume, est dans la haine et ne peut pas s'accomplir, dépense trop d'énergie à cette revanche.
Ça veut dire qu'il faut qu'il se dépasse à tous les niveaux, c'est-à-dire physiquement et psychologiquement, parce que j'imagine que la haine et l'amertume, ça doit être les premiers sentiments qui vous assaillent, notamment après un accident qui vous a rendu handicapé. Donc il faut dépasser ça aussi, c'est-à-dire qu'il faut devenir... pleinement humain, autrement humain, il faut s'adapter à tout, apprendre à s'adapter à tout.
Ben, il faut dépasser sa souffrance, évidemment, dépasser sa détresse, parce que je ne suis pas en train de dire que c'est être handicapé, c'est ce qu'il nous faut à tous, et c'est le bonheur.
Ce n'est pas un chemin de rose.
Pas du tout. Non, je veux dire par là qu'il faut vraiment beaucoup de courage et du dépassement. Et cela, il le mène absolument dans tous les actes de la vie quotidienne. C'est quelque chose de permanent. Mais ils y parviennent. Et la personne qui n'est pas champion, qui fait du sport le dimanche pour du loisir, ben je trouve la même joie, le même accomplissement. Ce qui veut dire que le sport est une des activités parce qu'elle met en évidence le corps. Ce corps blessé est une activité qui permet de résilier.
Ce corps blessé, ce corps qui du coup revient aussi en équilibre. Et la question de l'équilibre, parce qu'on se dit, quand on est amputé d'un membre, il faut retrouver aussi l'équilibre, la position dans l'espace, enfin se rééquilibrer à tous les sens du terme. Et pour le coup, le sport peut être une bonne piste justement de résilience.
Je suis à l'aise dans mon corps dès lors que j'ai un bon schéma de ce corps.
Comment se le représenter quand il a tellement changé ?
Et lorsque je tends ma main à droite, je rééquilibre mon corps pour éviter de tomber à gauche et ainsi de suite. Or, eux vont brusquement, tout va être changé du fait du handicap. Et il va falloir qu'ils construisent ce qu'on appelle un nouveau schéma corporel. Et ça, c'est une grande conquête. Mais à mesure de cette conquête, il va y avoir du plaisir. Et la seule condition de dépassement de soi, c'est le plaisir et c'est le désir. On doit d'abord être des êtres désirants et des êtres qui prennent du plaisir.
Et c'est ce qu'ils réapprennent, hein, justement, tous ces champions. Alors, on en revient à ces champions des Jeux paralympiques. Vous dites aussi qu'ils ont un beau chemin vers la victoire et qu'ils y résistent, parce qu'il faut résister à la victoire aussi. Peut-être parce qu'ils ont une approche un peu différente des autres champions, peut-être parce qu'ils cherchent à se dépasser eux-mêmes plutôt qu'à écraser les autres.
Vous savez, dans tous mes livres sur le sport, quand je travaille avec des grands champions, j'aime ces côtés émotionnels et je leur dis « Qu'est-ce qui se passe lorsque vous êtes monté sur la plus haute marche ?» Alors, ils sont très différents des valides. Le valide, il pense d'abord à lui, à sa victoire. Eux ne pensent pas à eux, quelquefois à ce qu'ils ont pu endurer. Mais il pense à tous ceux qui leur ont permis de réussir. Et alors, Marie-Amélie Le Fur, là, qui vient d'être médaille d'or
sur la longueur.
Il faut que j'arrive au troisième entretien pour lui dire, Marie-Amélie, bon, vous venez d'avoir une nouvelle médaille d'or au championnat du monde. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Alors, je me dis qu'en la remettant dans le contexte de cette victoire, c'est encore tout frais, elle vient de revenir, qu'elle va éclater, qu'elle va me parler de son émotion, de son bonheur. Et non, de quoi elle me parle ? De tous ceux qui l'ont aidé et que la prochaine fois, elle fera encore mieux. Ça, c'est absolument éblouissant pour moi qui ai vécu avec tant de grands champions et que je vois ce regard qui est à la fois passionné, mais qui est d'une certaine manière un regard apaisant, apaisant.
Marie-Amélie Le Fur, notre championne, médaillée d'or aux Jeux paralympiques de Rio. We are the champions. On écoute les Queens sur RFI.
I paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my shouts and kicks in my face, but I've come through. And I need to go on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We and everything that goes with it, I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose.
And I need to go on.
We are the champions.
We are the champions, Queen sur RFI. Autour de la question, pourquoi et comment des champions paralympiques? Une des réponses à cette question se trouve dans votre livre, Hubert Ripoll, La résilience par le sport. Dans le témoignage de Marie-Amélie Le Fur, dont on vient de parler, amputée d'une jambe, qui vient de décrocher la médaille d'or, de pulvériser le record paralympique de saut en longueur aux Jeux de Rio. Voici ce qu'elle vous confiait sur le rêve, Amélie Le Fur, juste avant Rio, avant sa médaille d'or.
Je ferai toujours en sorte que la phrase d'Antoine de Saint-Exupéry « Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité » corresponde au sens que je veux donner à ma vie. Ce n'est pas parce que l'on est en situation de handicap que l'on doit arrêter de rêver. Le handicap prive certainement de beaucoup de choses, mais certainement pas de rêver. J'ai un imaginaire qui est important. Imaginer permet de se projeter et ça me permet d'avancer. Cela m'a été très utile après mon accident, parce que sans cette part de rêve, je n'aurais pas pu aller de l'avant. On se perd soi-même dans le handicap et on ne sait pas ce dont on sera capable. Et comme on ne le sait pas, on se met à rêver de quelque chose qui peut être inatteignable. Ce sont des choses qui resteront peut-être des rêves, mais qui aide à la reconstruction. Bien sûr, je sais quelquefois que ces rêves sont inatteignables, mais j'accepte de partir dans ce voyage-là. Et si l'on n'atteint pas son rêve, on le transforme, on le vit différemment, avec d'autres personnes et dans d'autres conditions, quelquefois même par procuration. On peut vivre avec un rêve qui n'est pas abouti, mais on ne peut pas aboutir sans rêve.
Le rôle du rêve et de l'imaginaire chez Marie-Amélie Le Fur, comme chez tous ces athlètes, sportifs, champions, handicapés. Le rôle du rêve et de l'imaginaire.
Alors, vous faites bien de préciser chez tous. Ce que j'ai essayé de comprendre leurs émotions qu'ils expriment merveilleusement, peut-être moins élégamment que peut le faire Marie-Amélie Le Fur, mais il y a toute cette part de rêve. Alors, c'est quand même assez simple à comprendre. Lorsque vous êtes handicapé, surtout si le handicap est tardif, accidentel par exemple, il y a un moment de sidération. Votre corps ne vous servira plus tel qu'il est. Tous vos rêves passés sont brusquement jetés à terre. C'est la désidération la plus absolue. Si vous persistez dans cette sidération, vous disparaissez psychologiquement. Il y a un moment, heureusement, une énergie du désespoir qui fait que l'on peut envisager une étoile quelque part, une étoile que l'on peut atteindre. Philippe Croizon me dit, cette image de la traversée de la Manche, c'était quelque chose qui revenait de temps en temps. Certes, je savais que je ne serais jamais capable de faire cela. Et il dit, c'est comme une bouteille jetée à la mer. Or, qui jette la bouteille à la mer ? Celui qui est naufragé et qui a encore l'espoir que quelqu'un ramassera cette bouteille et viendra vous sauver. Sans cette part de rêve, la sidération vous anéantit. Alors, le rêve est nécessaire, mais il ne faut pas être dans la déréalité, c'est-à-dire fuir dans le rêve.
On ne peut pas faire que rêver, il faut rêver, mais voilà. On ne peut pas faire que rêver.
Et il faut que la rationalité vienne se conjuguer avec le rêve, et c'est cette part de rêve et de rationalité qui fait une construction permanente de l'individu et qui l'amène à se lever, à se hisser. Et comme le dit... j'ai oublié son nom.
Marie-Amélie ou...
Non, précédemment.
Emmanuel...
Non, bon.
Laetitia Bernard.
Sur son cheval, et merci.
Laetitia Bernard.
Pardon. Laetitia Bernard, elle dit « je m'envole ». C'est à la fois une image, c'est une réalité... Et c'est quelque chose que son corps ne lui permet pas de faire. Et c'est un rêve qu'elle accomplit.
Et en même temps, ce que je trouve fascinant, c'est que ce que dit Laetitia Bernard, ce que dit Marie-Amélie Le Fur, Emmanuel Morchet, c'est ce qui nous fait humains. C'est-à-dire qu'il faut rêver, hein, ce que disait Saint-Exupéry, il faut rêver sa vie et puis se donner les moyens de réaliser son rêve. Mais ce sont eux qui nous montrent qu'on peut, rêver sa vie, on peut rêver l'impossible. Et le pire, le meilleur, c'est qu'on peut y arriver. Il y a quand même quelque chose qui est une... on parlait de leçon de vie, mais qui nous touche, nous, chaque être humain, valide. On a le droit de rêver. Eux, ils sont obligés de rêver, finalement. Mais on a le droit de rêver et on peut y arriver.
Vous savez, eux adressent un message à tous les individus handicapés, bien sûr, leurs pères, mais les individus valides. Et ils leur disent, vous avez en vous des capacités exceptionnelles. Et il suffit d'y croire et de vous accrocher et vous allez les exploiter et vous allez y parvenir. Ça, c'est le message qu'il nous donne. Et ce qui est très important, et c'est ce que j'ai voulu mettre en évidence, c'est que les personnes handicapées, certes, sont dans la souffrance, certes, sont dans la difficulté, mais si on se donne la peine de les regarder, elles nous apprennent quelque chose qui nous grandit.
Et qui nous importe aujourd'hui énormément. C'est-à-dire, au fond, c'est donner un sens à sa vie propre, individuelle, collectivement. Et c'est quand même à ça qu'ils répondent. Ils ont réussi à renaître, à redonner sens à leur vie. Et quel sens, en plus ?
Oui, eh ben, il suffit de les lire. Parce que c'est eux qui s'expriment dans ce livre, plus que dans tous mes autres livres.
Vous leur avez laissé la parole parce qu'au fond, ils sont lucides sur eux-mêmes. Ils ont travaillé sur eux-mêmes de manière, sur leur corps, mais pas seulement. Hein. C'est des sportifs qui parlent très bien. Hein.
Dans mes livres, en général, il y a 30 à 35% d'entretien. Et puis le reste, c'est où j'analyse, où je décortique et j'essaye d'expliquer comment ça fonctionne. Mais là, c'est le contraire. Il y a 75% d'interviews et moi, j'ai 25%. Pourquoi ? Parce qu'ils disent tellement de choses et je ne ferai que les paraphraser. Et puis, je suis désolé, mais d'habitude... Et là, vous m'avez dit plusieurs fois, mais qu'est-ce que vous pensez de ce qu'ils ont dit ? Mais ah, je pense bien à vos auditeurs qui sont là, qui attendent que je dise quelque chose, mais j'ai envie de leur dire, mais écoutez, ils ont dit l'essentiel. Donnez-vous la peine d'ouvrir vos oreilles. Ils ont dit l'essentiel. Réécoutez ce que dit Amélie. Essayez d'intégrer ça dans votre vie. Et peut-être que vous aussi, vous atteindrez cette merveilleuse étoile.
C'est Marie-Amélie Le Fur, hein, qui exprime cette phrase de Saint-Exupéry. « Fais de ta vie un rêve et fais en sorte que ce rêve devienne réalité. eux l'ont mis en pratique, on peut peut-être nous valider s'en inspirer. Merci infiniment, Hubert Ripoll, d'être venu en direct nous inspirer à travers tous ces parcours exceptionnels, nous faire rire, parfois sourire aussi. J'invite nos amis auditeurs à aller sur le net, regarder des extraits de la série Vestiaire, où il y a beaucoup d'humour et d'autodérision aussi, à suivre également les Jeux Paralympiques. Votre ouvrage, La Résilience par le Sport, c'est à lire pour avoir tous ces témoignages aux éditions Odile Jacob, qu'on soit sportif ou pas, valide ou pas. Merci Hubert Ripoll.
Merci.
Autour de la question sur Internet, www.rfi.fr.
Demain, pourquoi courir après les papillons ? Nous découvrirons comment vivent ces superbes et étonnants lépidoptères, ici comme ailleurs, sur les traces des grands pans de nuit, des sphinx à tête de mort et des fabuleux morphos bleus, avec Apolline Verlon-Raison à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. D'ici là, amis auditeurs, surtout portez-vous bien. Restez curieux, osez rêver, réalisez vos rêves, gardez l'esprit libre et ouvert. Dans quelques instants, ce sera l'heure d'un nouveau journal sur RFI.